lecture, donc dans le livre de Ruth, au chapitre 4.
Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, « Acquière-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Et il répondit, « Je rachèterai. » Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon, à Malchon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Malchon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. » Que l'Éternel rende de la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péré, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme, et ce sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille, qui t'aime, l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. » Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péré. Péré engendra Hetsron, Hetsron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David.
Voilà, notre série dans ce petit livre qui raconte une des plus belles histoires de la Bible touche à sa fin. Ce matin, nous allons aborder les derniers versets, les derniers épisodes de cette histoire et on va essayer de mieux comprendre la portée de ce livre et le message de Dieu qu'il contient. Alors, dans l'évangile de Jean, il y a un passage où Jésus dit aux Juifs qui contestaient son autorité, donc je cite l'évangile de Jean, « Vous sondez les Écritures ». Parce que vous, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et ce petit livre de Ruth fait bien partie des Écritures. Cela veut dire que ce matin, ce que nous avons entre nos mains, et je vous invite à reprendre vos Bibles si vous les avez fermées, ce que nous avons entre nos mains, est non seulement un témoignage rendu à Jésus, mais une invitation à venir à lui et à goûter à la vie éternelle. Quel privilège gigantesque. Alors la semaine dernière, le récit de Ruth a fini en nous tenant en haleine. Au chapitre 3, nous étions les témoins d'un plan osé de séduction. Ruth, suivant les conseils de sa belle-mère, s'est rendue sur l'aire de battage pour se mettre aux pieds de Boaz, notre héros célibataire, connu pour sa bienveillance, sa bonté, sa générosité envers les veuves. Alors c'était un plan un peu fou, un peu osé, un peu risqué, mais il n'empêche, bien intentionné. Naomi voulait que sa belle-fille trouve une bonne situation, un bon mari, dans le langage biblique, du repos. Alors Ruth n'avait pas suivi les consignes de sa belle-mère à la lettre, parce qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de parler. Elle a tout déballé. Elle a mis de côté la bienséance et elle lui a fait une demande en mariage. Elle a demandé à Boaz d'être son rédempteur, de prendre soin d'elle. Alors cette demande n'a pas déplu du tout à notre héros, M. Boaz. Loin de là, il s'est dit flatté parce que Ruth avait prouvé une fois de plus qu'elle était bien une femme de grande valeur. La femme à l'image de la femme de Proverbe 31. Elle avait été si fidèle, si loyale, si bienveillante à l'égard de sa belle-mère, Naomi, qui avait eu tant besoin d'elle. Alors Boaz n'avait pas fait semblant d'avoir besoin du temps pour y réfléchir. Il n'a pas joué avec elle en proposant des fiançailles de 5 ans pour tester sa patience. Il était un homme de conviction. Il a dit oui tout de suite, sans l'ombre d'une hésitation. Mais oui, à condition que, et voilà le hic, à condition qu'un autre rédempteur, plus proche que lui, dans l'hiérarchie familiale, ne dise pas oui avant lui. Alors Boaz est un homme honnête, il veut bien se marier avec Ruth, mais il ne veut pas léser les doigts d'un autre parent pour y arriver. Naomi a confiance en lui. Elle a dit à la fin du chapitre 3, « Cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Voilà le décor bien planté. Comment ça va se passer? Est-ce que Ruth va avoir son mari? Est-ce que Boaz pourra se marier avec la femme pour qui il a tant d'estime? Alors le décor du chapitre 4 est bien différent des chapitres précédents. Nous nous retrouvons d'abord au verset 1 à 12 dans un monde juridique, un monde de notaires et d'affaires. Et nous verrons que même dans ce monde-là, la providence de Dieu est bien présente. Cette providence par laquelle Dieu ordonne les détails de nos vies pour accomplir ses desseins. Et dans un deuxième temps, au verset 13 à 17, nous entrons dans un monde plutôt domestique, de mariage, de sages-femmes et d'enfants. Et Dieu n'est pas absent non plus dans ce monde-là. Et nous allons conclure dans la bibliothèque ou dans les archives, dans le musée de l'histoire familiale, et nous verrons que le Dieu souverain ordonne vraiment toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On va commencer avec cette première partie, chez le notaire. Verset 1. Boaz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand le plus proche parent dont il avait parlé vint à passer, Boaz lui dit « Un tel, viens donc t'asseoir. » Ici, l'homme s'approcha et s'assit. On ne connaît pas son nom. Le texte dit « un tel ». L'histoire ne se souvient pas de son nom. Dans sa providence, dans la providence de Dieu, ce n'était pas lui que Dieu avait en vue. Boaz, avec une autorité qui reflète peut-être son âge, son expérience, son standing social, demande vite fait à 10 hommes, des anciens de la ville, à assister à cette scène. Nous sommes un peu comme chez le notaire, domaine de Jean-Joël. Il y a tous les témoins qu'il faut. Quelle que soit l'issue de cette rencontre, l'accord va les engager juridiquement, financièrement et maritalement. Boaz, tout paysan qu'il soit, C'est vrai, il a l'air plutôt à l'aise dans le domaine de l'administration. Il commence à expliquer à ce plus proche parent les tenants et aboutissants de l'affaire. Cela peut paraître un peu surprenant, mais M. Bose est un fin stratège. C'est un homme qui s'y connaît en affaires. Alors Bose commence par présenter l'affaire commerciale. Il y a de la terre à acheter, versets 3 et 4. Naomi, qui est revenue du pays de Moab, met en vente le champ d'Élimélec, notre parent. J'ai pensé t'en informer et te proposer de la racheter par devant les habitants de la ville et les responsables de mon peuple ici présents. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi. Que je le sache, car tu viens en premier lieu pour disposer du droit de rachat, et je viens directement après toi. Bose présente une transaction alléchante, de la terre. Mais il ne parle pas encore des conditions qui s'y rattachent. Ainsi, l'affaire est alléchante parce qu'elle permettrait à monsieur un tel d'agrandir ses terres et ses futures rentes pour lui et sa famille à perpétuité. À perpétuité parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autres héritiers. Il est peu probable que Naomi aurait un jour un fils dans sa vieillesse qui demanderait la restitution de sa terre à sa majorité. Donc M. Untel ne voit aucune raison pourquoi il n'achèterait pas. En clair, il va se mettre plein les poches. C'est un oui clair. Il veut racheter la terre. Le bonheur de Ruth, le repos de Ruth, le bonheur de Bose sont en jeu. C'est une stratégie risquée, mais une fois qu'il a présenté le côté positif de manière honnête, il ne se retient pas dans sa présentation du côté négatif. Il y a des conditions et Bose les stipule devant les 10 témoins notaires présents à la porte de la ville. Verset 5. Il faut acheter ce champ au nom de Ruth. C'est vrai, Élimélec, il avait eu des fils. Et il reste la veuve de Mahlon, Ruth. Bose ne dit rien de ses vertus, ni de son comportement si bienveillant. Non, il met plutôt en avant le fait qu'elle est une étrangère du pays de Moab. Et le fait que le Rédempteur qui achète cette terre aura l'obligation de lui donner un fils, pour maintenir non pas sa propre lignée généalogique, mais celle d'Élimélec. Juridiquement, ce fils sera considéré comme celui de Mahlon, son mari défunt, et non pas celui de son Rédempteur. Alors, c'est une pratique qui vient de la loi des Israélites que Dieu leur avait donnée. Cela permet au nom, à l'héritage d'un homme de ne pas disparaître à tout jamais de l'histoire du peuple, comme s'il n'avait jamais existé dans la vie du peuple. Il faut dire que la perspective de l'éternité, de la vie après la mort, est quelque chose qui devient de manière progressive de plus en plus forte dans l'Ancien Testament. Mais à ce stade de l'Ancien Testament, cette perspective n'est pas très forte. Un homme vit par sa descendance. Et s'il n'en a pas, c'est grave. Ensuite, Bose, il veut qu'ils comprennent qu'il y a un boulet financier à traîner. Oui, la terre est une bonne affaire, mais la femme ne l'est pas. Il faut avoir un fils qui ne sera pas le sien. La terre achetée reviendra à ce fils après quelques années, ce qui fait qu'il perdra l'investissement. Cet argent investi sera perdu et n'ira pas à ses propres enfants. Et qui sait si le fils qui sera né de Ruth aura peut-être des droits à son héritage. Monsieur Untel commence à réfléchir deux fois. Bose lui a bien fait comprendre les enjeux. Verset 6. Dans ces conditions, dit le plus proche parent, je ne peux pas racheter pour mon compte, car je ferai tort à mon propre patrimoine. Reprends donc à ton compte mon droit de rachat, car je ne puis en profiter moi-même. Ouf, le sale respire de nouveau. Il va y avoir un happy end. La voie est enfin libre pour Bose de prendre Ruth pour sa femme, comme femme. Bose ne tergiverse pas. Il veut clore l'affaire à toute allure. Il veut reprendre à son compte ce droit de rachat. Autrefois, en Israël, lorsqu'on procédait à un rachat, en échange de biens, la coutume voulait que l'un des contractants ôte sa sandale et la donne à l'autre pour valider la transaction. C'est vrai que c'est une pratique curieuse. Il faudrait demander à Jean-Joël après s'il a jamais vu ça dans un cabinet de notaire en France. En tout cas, ce petit verset nous montre que ce récit a été écrit bien des années plus tard. Cette histoire n'avait pas été oubliée, mais précieusement conservée. Cette histoire n'est pas simplement une petite histoire, une belle histoire à raconter autour d'un feu de camp pour faire passer l'hiver. Elle nous montre quelque chose. Elle nous montre comment Dieu œuvre de manière providentielle, même dans nos actions stratégiques, même dans nos affaires familiales et commerciales. Dieu ne dédaigne pas ces choses. On peut lui les confier et lui faire confiance. La distance entre le sacré et le profane n'est pas grande. Dieu se mêle de tout pour faire aboutir ses plans, y compris nos actions, nos plans, nos stratégies. Ces choses ont du sens à ses yeux. Les prières qui suivent dans ces versets montrent que Dieu est à l'œuvre dans cette histoire de manière tout à fait exceptionnelle, extraordinaire et historique aussi. Bose va droit au but et déclare de manière on ne peut plus publique son intention d'épouser Ruth. Tout le monde l'entend, tout le monde est pris à témoin, et ses témoins répondent, verset 11, « Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui, à elles deux, ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Puisses-tu toi-même prospérer à Ephrata et devenir célèbre à Bethléem. Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme une descendance aussi nombreuse que celle de Péré, le fils que Tamar a donné à Juda. » Rachel et Léa étaient des femmes de Jacob, qui est appelé Israël aussi. Leurs fils et les fils des femmes qu'elles ont données à Jacob sont devenus les chefs ou les têtes des 12 tribus d'Israël. Et c'est par ces femmes que Dieu a commencé à accomplir les promesses faites à Abraham, de faire de ses descendants un peuple nombreux. Et le peuple prie que Dieu fasse quelque chose de spécial par la femme de Bose. Et jusqu'ici dans cette histoire, Dieu a toujours répondu à toutes les prières qui ont été faites. Le peuple demande que Ruth intègre leur histoire et que Dieu l'utilise pour refonder la nation, pour faire aboutir les promesses faites à Abraham, pour être comme une deuxième matriarche du peuple. Dieu est à l'œuvre. Mais c'est à ce moment-là que la scène change. Alors nous quittons le monde des notaires, des hommes d'affaires, pour trouver les délices de la domesticité. Il y a un mariage, il y a la nuit de noces, que je vous rassure, c'est décrit de manière très sobre, verset 13. C'est ainsi que Bose prit Ruth pour femme, lorsqu'il se fut uni à elle. L'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte, et elle donna naissance à un fils. C'est la deuxième fois que Dieu intervient de manière directe dans ce livre. Par sa providence divine, il a été à l'œuvre tout au long de l'histoire. Mais à deux reprises dans le texte nous dit qu'il est intervenu de manière spécifique. Chapitre 1, verset 6. Le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Ici, au verset 13, Dieu intervient de nouveau et il accorde à Ruth de devenir enceinte. C'est bien Dieu qui est le héros de cette histoire. C'est lui qui a renversé la situation. La famine a cédé à la moisson. La veuve Ruth est mariée, elle a du repos. L'étrangère et la femme de Bose, un Israélite remarquable, un sans-abri, a maintenant un foyer. Celle qui avait perdu sa famille en a une nouvelle. La mort est remplacée par la vie, la naissance d'un fils. Et l'auteur de cette histoire veut que nous sachions que c'est Dieu qui a fait ça. Cette belle histoire miroite en quelque sorte les structures profondes de l'histoire de la Bible tout entière. Tu avais promis à Abraham de renverser les effets dévastateurs du péché de l'homme en bénissant sa descendance de manière gratuite et libre. À la fin de cette histoire, la caméra revient et se focalise sur Naomi et le bébé. On n'entend plus parler de Boaz et de Ruth. C'est Naomi qui prend le devant de la scène. Dieu a changé sa situation de fond en comble. Regardez le verset 15. Les femmes à qui Naomi elle-même avait annoncé à la fin du chapitre 1 que son nom était désormais Mara, ce qui veut dire amère, parce que le Seigneur l'avait fait revenir les mains vides, c'est ces mêmes femmes qui lui disent cette fois-ci, « Le Seigneur te fait revenir à la vie. » Comment est-ce que Dieu l'a fait? Son règne providentiel dans les coulisses, certes. Mais il a choisi de le faire par le biais de deux personnes qui reflétaient son cœur. Il a fait par le biais de Boaz, un homme de bienveillance, de générosité, de bonté, et par le biais d'une femme, Ruth, pleine de loyauté, de fidélité, de bienveillance. Pourquoi? Parce que le Seigneur bénit la bienveillance. Il prend plaisir à récompenser la bienveillance. Cette fidélité, il l'aime parce qu'elle reflète son propre cœur. Dieu est le Dieu qui transforme la malédiction en bénédiction. Il a fait par le biais d'un rédempteur, Boaz. Mais si on lit bien ce texte, on voit au verset 14 que le rédempteur dont il est question, à la fin en tout cas, c'est le fils, Obed, lui-même. Comment ça? Au verset 17, les femmes crient « Naomi a eu un fils ». C'est Naomi qui devient un peu la mère adoptive, la nourrice pour Obed. Ce qui fait que cet enfant prendra soin d'elle dans sa vieillesse. Cet enfant prendra soin d'elle comme sa propre mère. Dieu est bon. Sa providence est bienveillante. Ruth a été rachetée par Boaz et Naomi aussi par ce fils. Alors, est-ce simplement une belle histoire? C'est vrai, ça finit bien. Il y a un bébé. Le nom d'Elimelech n'est pas perdu à tout jamais. Il y a une descendance. Mais l'auteur de ce livre veut nous montrer qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de se passer. Nous voilà à cette généalogie qui clôt le livre. Versets 18 à 22. Il y a 10 générations. Notre héros Boaz est en 7e place, une très bonne place. Et puis on voit que le petit Obed, serré dans les bras de sa grand-mère, sera un jour le grand-père d'un certain David. David, c'est le dernier mot de ce livre. Le livre commence avec l'histoire d'Elimelech, un nom qui signifie « Mon Dieu est le roi ». Et cela finit avec un roi, le grand roi d'Israël. Mais qu'est-ce que cela ajoute de savoir que notre histoire termine avec le grand-père David, qu'Obed soit le grand-père de David. L'auteur y attache beaucoup d'importance. Je pense que l'auteur voulait montrer que le roi David n'était pas n'importe qui, ou que sa famille n'était pas n'importe quelle famille. Et même s'il avait une Moabite pour arrière-grand-mère, Dieu a-t-il bien à l'œuvre dans cette famille? Tu avais sauvé cette famille par sa providence bienveillante. Et donc ceux qui contestaient peut-être le règne de David ou la dynastie de David après, ils devaient savoir que ce roi était un roi dont la lignée était bénie par Dieu lui-même. Ils devaient l'accepter et se rallier à son règne. Très bien, mais qu'en est-il de nous? Ruth ne disparaît pas comme ça de l'histoire. Cette généalogie réapparaît au début du chapitre 1 de Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et plus loin, Boaz avec Ruth engendra Obed, Obed engendra Jessé, Jessé engendra David. Dieu a fait que cette femme moabite, étrangère, devient non seulement l'ancêtre du grand roi David, mais du roi des rois, Jésus-Christ. Dieu est intervenu de manière miraculeuse en donnant un bébé à la Vierge Marie, et ce fils qui nous est né est celui que la Bible présente comme étant le Rédempteur du monde. Celui qui veillera sur nous, non pas dans notre vieillesse, mais dans l'éternité. Il ne nous rachète pas de la famine, du veuvage ou de la stérilité, mais il nous rachète de la malédiction de la loi. Oui, la loi. Pourquoi la loi ? Parce que la loi nous montre que nous sommes pécheurs, que nous sommes loin de lui. Comme dans un pays étranger, comme à Moab, c'est vrai, nous n'arrivons pas à vivre selon nos propres exigences, encore moins selon celles de notre Créateur. Et la Bible nous montre que le salaire de notre indifférence vis-à-vis de Dieu, notre manque de fidélité, est la mort. Chaque fois que la mort lève sa tête, tragiquement, la mort n'a été que trop présente cette semaine, la mort nous rappelle notre finitude, mais plus que cela, elle nous montre notre culpabilité, la sentence de notre Créateur, qui ne pouvait pas nous laisser continuer sur cette voie comme si de rien n'était. L'Épître aux Galates nous dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Il a fait à la croix. C'est là que notre Rédempteur a donné sa vie pour nous. Cette vie bienveillante, généreuse, pleine de bonté, cette vie qui accomplissait la loi et plus encore, un peu comme Bose. Il a pris sur lui la malédiction qui de droit doit tomber sur nos vies. Il s'est mis à notre place. En échange, il nous a donné sa vie, cette vie qui ressemble à celle de Ruth et de Bose, mais dont la bienveillance est infiniment plus grande et pure. L'Épître de Galates appelle ça la justification. Quand Dieu voit quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus, ce Rédempteur, quand il voit quelqu'un qui a quitté le pays de Moab, de la rébellion, et qui s'est tourné vers la patrie de son fils, qui a cessé de prétendre que le Dieu bienveillant n'existe pas, et qui s'est réfugié sous ses ailes, Dieu donne gratuitement à cette personne toute la fidélité de Jésus. Et quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Il voit cette fidélité, cette bienveillance. Il nous déclare juste et acceptable à ses yeux. L'histoire de Ruth et de Boaz est l'histoire de notre Dieu bienveillant, de notre Rédempteur bienveillant, Jésus-Christ. Et c'est également un appel à nous confier en lui. Est-ce que vous avez mis votre confiance en le Rédempteur ? Qui renverse la mort et dans la vie. Est-ce que vous avez fait ça? On ne peut mériter quoi que ce soit. Nous sommes comme Naomi. Sans Jésus, nous sommes loin de Dieu, dans la dèche, sans famille, les mains vides, face à la mort. Mais dans sa providence, dans son amour, Dieu nous a donné un Rédempteur bienveillant. C'est lui qui mérite le salut. Il a mérité. Et Dieu le lui a donné. Il a ressuscité d'entre les morts. Il vit à la droite du Père. Il donne à tous ceux qui se rallient à lui, qui se confient en lui, cette vie éternelle. Ce petit livre est un témoignage rendu à Jésus. Et elle est une invitation à nous rallier à ce roi que Dieu, dans sa providence divine, nous a donné. Et à venir à lui, et à goûter à la vie éternelle. Quel privilège gigantesque. Je vous invite à la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce petit livre si beau, qui témoigne de la grandeur de ta bienveillance à l'égard de ta création, à l'égard des hommes et des femmes, comme nous. Père, nous étions loin de toi, perdus dans notre rébellion. Nous vivions pour nous-mêmes, nous suivions chacun notre propre voie. Mais toi, parce que ta nature est miséricordieuse, tu nous as donné ce Rédempteur
un homme bien, un homme si différent de nous, pur, bienveillant, sans péché. Et c'est lui qui a pris le châtiment que nos péchés méritaient, pour que nous puissions en être libérés, rachetés. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci de tout notre cœur. Père, pardonne-nous toutes les fois que nous vivons comme si Jésus n'était pas notre Rédempteur. Puisse son Fils être élevé dans nos vies. Veuille nous aider à nous émerveiller de lui, de ce que tu as fait pour nous, en lui et par lui. Et aide-nous à le suivre jour après jour, sur la voie de la bienveillance, de la fidélité, de la loyauté et de l'amour. Père, nous te demandons ces choses au nom de notre Rédempteur, ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
Voilà, merci beaucoup, Trevor. Je propose de chanter, d'avoir un temps de chant, repensant à ce que nous venons d'entendre, de chanter « Mon seul abri, c'est toi ». Trevor l'a bien dit, Naomi avait tout perdu,